Bonjour.
On va rester dans la thématique de Gilles, puisqu'on va parler de relation avec Dieu, de prière, de qui est Dieu pour nous. Et on va le faire via un passage qui est assez connu, qui est la prière d'Abraham. Et on va essayer de décortiquer cette prière et de voir ce qu'elle peut nous dire de la relation que Abraham avait avec Dieu et que nous pouvons avoir avec Dieu. Et du coup, la question qui nous est posée dès le départ, c'est à quoi ça sert de prier ? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Je sais que je travaille avec des étudiants qui se posent beaucoup la question. À quoi ça sert que je dise à Dieu mes problèmes, sachant qu'il les connaît déjà? À quoi ça sert que je dise à Dieu mes problèmes, sachant qu'en fait, il les écoute, mais au final, il fait ce qu'il veut? Pas besoin d'argumenter, il va faire ce qu'il voudra. Pas besoin de l'informer, il est déjà informé. Alors pourquoi prier au final? À quoi ça sert? Et notre passage, le passage aujourd'hui, est un des passages dans la Bible qui répond le mieux à cette question. Qui répond vraiment le mieux à cette question. On va lire dans la Genèse, au chapitre 18. Et avant de lire, je vous dis ce qui s'est passé avant. Dieu avait fait alliance avec Abraham et il lui avait promis une descendance. Abraham a été un peu plus vite, même beaucoup plus vite que la musique. Et Sarah aussi. Il a fait un bébé avec la servante de Sarah. Mais maintenant, ils sont vieux. Et il y a trois hommes qui passent voir Abraham et Sarah. Et ces trois hommes disent à Abraham, l'année prochaine, nous repasserons et tu auras un fils. Ce qui fait beaucoup marrer Sarah. Et qui fait pas forcément marrer Abraham. Mais en tout cas, ils sont circonspect devant une telle annonce de ces trois hommes dont on ne connaît pas encore l'identité. Peut-être qu'on va la connaître maintenant. Donc, commençons par lire le chapitre 18 à partir du verset 16 jusqu'au verset 33. Les hommes, donc les trois hommes, les hommes se levèrent pour partir et se tournèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Or, le Seigneur avait dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Alors qu'Abraham va devenir une nation grande et forte et que toutes les nations de la terre se béniront par lui, car je l'ai distingué afin qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison auprès de lui de garder la voie du Seigneur en agissant selon la justice et l'équité. Ainsi le Seigneur fera venir sur Abraham ce qu'il a dit à son sujet. Le Seigneur dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe sont si forts, leurs péchés si graves, que je vais descendre pour voir s'ils ont agi tout à fait selon les cris qui sont venus jusqu'à moi, que cela soit ou non, je le saurai. » Les hommes repartirent de là pour Sodome. Mais Abraham se tenait encore devant le Seigneur. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu supprimer le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville ? Vas-tu vraiment supprimé ? Ne pardonneras-tu pas à ce lieu à cause des 50 justes qui s'y trouvent ? Jamais tu ne ferais une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant, de sorte qu'il en serait du juste comme du méchant. Jamais ! Le juge de toute la terre n'agirait-il pas selon l'équité ? Le Seigneur dit, si je trouve à Sodome 50 justes au milieu de la ville, à cause d'eux, je pardonnerai à ce lieu tout entier. Abraham reprit, j'ose te parler, Seigneur, alors que je ne suis que poussière et cendre. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5 ? Pour 5, anéantiras-tu toute la ville ? Il répondit, je ne l'anéantirai pas si j'en trouve là 45. Abraham continua cependant de lui parler. Il dit, peut-être s'en trouvera-t-il là 40 ? Il répondit, à cause de ces 40-là, je ne ferai rien. Abraham dit, je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas si je parle encore. Peut-être s'en trouvera-t-il là 30 ? Il répondit, je ne ferai rien si j'en trouve la 30. Abraham dit, j'ose encore te parler, Seigneur, peut-être s'en trouvera-t-il là 20 ? Il répondit, à cause de ces 20-là, je n'anéantirai pas. Abraham dit, je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas si je parle encore une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il 10 ? Il répondit, à cause de ces 10-là, je n'anéantirai pas. Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, le Seigneur s'en alla et Abraham retourna chez lui. Fin de notre lecture de la parole de Dieu. Vous avez peut-être commencé à remarquer des éléments de structure dans ce texte. Vous avez remarqué qu'il y avait peut-être des répétitions. Si vous n'avez pas remarqué qu'il y avait des répétitions, en fait, bon, peut-être que vous avez un petit problème de mémoire. Parce que bon, c'est très répétitif à certains endroits. On peut voir que notre texte est bien structuré et qu'il est délimité en deux parties. La venue de mystérieux hommes. Et on peut le voir, j'ai surligné ces parties. Hein. Vous avez le passage qui commence avec les hommes qui parlent à Abraham. Vous avez en plein milieu de la deuxième partie, enfin au début de la deuxième partie, on voit qu'il y a les hommes qui partent pour Sodome et Abraham qui se tient encore devant le Seigneur. Et enfin, à la fin, on voit que lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, le Seigneur s'en alla et Abraham retourna chez lui. Si vous êtes bon en mathématiques, enfin si vous êtes bon, si vous avez un niveau de grande section en mathématiques, vous pouvez voir qu'en fait, s'il y avait 3 hommes au départ et s'il en restait un à la fin, il y en a 2 qui étaient partis pour Sodome et un seul qui était resté. Et parmi ces 3 hommes, à l'identité au départ mystérieuse, on voit que parmi ces 3 hommes, il y avait un ange qui parlait au nom du Seigneur dans ces 3 hommes. Et on peut voir au début du chapitre 19 que juste après notre passage, il y a les 2 hommes qui étaient partis qui arrivent à Sodome. Donc en fait, ça vient appuyer sur le fait que là, Abraham est en train de parler avec l'ange du Seigneur, l'ange qui parle au nom du Seigneur, qui faisait partie de ces 3 hommes. Donc on voit le passage avec les 3 hommes qui délimite notre passage en 2 parties. Et dans la première partie, on peut voir qu'il y a la mission d'Abraham qui est énoncée. La mission d'Abraham est énoncée. Et quelle est cette mission ? Je ne sais pas si vous voyez, mais je vais vous l'énoncer de toute façon. On peut la voir donc en vert et en vert clair et en vert foncé. La première partie de la mission d'Abraham, en fait, on la connaît si on a lu le chapitre 17, mais je ne suis pas sûr que vous ayez lu le chapitre 17 ce matin avant de venir, donc je vais vous la rappeler. Une des premières missions d'Abraham, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un petit truc qui gêne. Ah ouais. Oh, j'ai bien peur que ce soit à l'intérieur. La première mission d'Abraham au verset 18, c'est que ce que Dieu lui avait dit avant, quand il a fait alliance avec lui, il lui a dit, je vais faire de toi une nation forte et nombreuse. Vous vous rappelez, hein, tes fils seront plus nombreux que le sable de la mer. Et surtout, toutes les nations seront bénies par toi. Première élément de mission d'Abraham, toutes les nations doivent être bénies par lui. Et sous-entendu, parce que j'ai une relation avec toi et que toi, tu vas devenir une nation puissante, les autres nations vont me connaître au travers de toi. C'est un peu ça l'idée de l'alliance entre Dieu et Abraham. Ensuite, la deuxième mission d'Abraham, au verset 19, qui est rappelé, c'est que si Dieu a distingué Abraham, c'est afin qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison de garder la voie du Seigneur en agissant selon la justice et l'équité. La justice et l'équité. Abraham a cette mission-là d'enseigner la justice et l'équité à toute sa maison, et on peut penser aussi qu'après, les nations pourront voir cette maison qui agit avec justice et équité, et toutes les nations auront envie de faire pareil. Donc, bénédiction de toutes les nations et enseigner sa maison avec justice et équité. Ce sont les deux missions d'Abraham qui sont rappelées par Dieu ici. Et en fait, on voit qu'il ne le rappelle pas à Abraham. En fait, là, on a un discours intérieur de Dieu qui nous est rapporté. C'est Dieu qui dit ça tout seul. Mais ce n'est pas la seule mission qui est énoncée dans cette première partie. Il y a aussi une mission de jugement que j'ai surlignée en rouge, qui est rappelée. Dieu a une mission de jugement quand il vient voir Abraham. Il vient pour châtier Sodome. Et je vous lis ce qu'il y a dans les versets 20 et 21. « Les cris contre Sodome et Gomorre sont si forts, leurs péchés si graves, que je vais descendre pour voir s'ils ont agi tout à fait selon les cris qui sont venus jusqu'à moi. Que cela soit ou non, je le saurai. » Donc Dieu va voir si le péché de Sodome et Gomorre est si grave pour qu'il les châtie. Donc, première sous-partie, les missions d'Abraham, et deuxième sous-partie, la mission de châtiment de Sodome. Peut-être que oui, ça. Je ne vous avais pas montré le truc en rouge, mais de toute façon, il est lisible, donc tout va bien. Ensuite, nous avons une deuxième partie avec l'intercession d'Abraham. Dans les versets 23 à 26, il y a une intercession qui est développée, et après, nous avons cinq autres intercessions qui sont sur le même modèle. Mais on va voir la première intercession d'Abraham, que je vous montre ici. Je vous ai souligné et je vous ai mis en gras certaines choses qui vous rappellent finalement les deux missions qui sont énoncées plus haut. Je vous ai souligné la notion de justice et d'équité dans cette deuxième partie, hein, dans ce que dit Abraham à Dieu. Abraham rappelle à Dieu qu'il est un Dieu juste, qu'il est un Dieu équitable et qu'il ne va pas détruire toute une ville s'il reste des justes à l'intérieur. Et il insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a huit notions de justice et d'équité dans cette prière, dans cette première intercession d'Abraham. Et là, on voit que tout de suite que Abraham répond à sa mission. Il avait pour mission d'enseigner la justice et l'équité. Là, qu'est-ce qu'il fait quand il prie Dieu pour intercéder en faveur de Sodome? Il rappelle à Dieu sa justice. Mais la deuxième chose aussi qu'on trouve dans cette prière d'intercession d'Abraham, c'est que voilà, il rappelle aussi que Sodome, est rempli de péché. On voit qu'au niveau du pourcentage, il dit s'il y a 50 justes, il ne va pas détruire toute la ville. Disons que Sodome fait 5000 habitants, un truc comme ça au pif. Mais 50 justes sur 5000 habitants, le ratio est assez faible. Nous avons affaire à une ville qui est vraiment remplie de péchés. Une ville qui a un certain problème. Mais on voit que Abraham, sans nier le péché de Sodome, rappelle aussi à Dieu sa justice en disant « S'il y a des justes dedans, tu ne peux pas, parce que c'est toi, tu ne peux pas la détruire. » Mais une fois qu'il a dit ça, une fois qu'il a fait cette première prière d'intercession, nous avons ce que j'appellerais les cinq intercessions de marchands de tapis. Vous avez vu, il baisse les prix, le nombre de justes. Donc on a démarré à 50 justes et on finit avec 10 justes. Voilà. La structure, ça s'appelle une hyposeux. Si vous voulez dire un truc intelligent ce midi pendant le repas, vous pouvez sortir hyposeux. Par contre, il faut avoir la bouche vide quand on dit hyposeux, sinon ça projette un peu. Une hyposeux, c'est une succession de phrases qui ont une structure parallèle. Donc en fait, vous avez sûrement remarqué que la structure de toutes les intercessions d'Abraham sont sur le même style. Parole d'Abraham, donc Abraham dit, marque d'insistance, donc soit Abraham dit « Oh, je ne suis que poussière, oh Seigneur, encore une parole, oh Seigneur, permets-moi d'insister ». Voilà, marque d'insistance de la part d'Abraham. Abraham énonce le nombre de justes qui décroît au fur et à mesure, et nous avons une réponse de Dieu qui est toujours la même. S'il y a le nombre de justes que tu me dis, je n'anéantirai pas Sodome. Toujours la même structure. Et cette structure-là, si elle est là, elle est là pour insister sur une chose. La chose que vous avez tous vue, c'est que le nombre baisse et que Abraham a l'air de négocier un truc. Mais quel est le truc qu'il est en train de négocier? Le suspense est insoutenable. Et pour mettre fin à ce suspense, je vais vous le dire dans très peu de temps. Mais la première chose qu'on peut voir, en tout cas dans ce passage, c'est que nous avons affaire à une prière relationnelle. Que cette prière est la marque de la relation particulière que Dieu a avec Abraham. Notre passage commence par Dieu qui dit, mais donc Dieu avec les trois hommes sont là pour dire au départ à Sarah qu'elle aurait un fils un an après. Donc c'est ça le but de départ. Et là on a les trois hommes qui s'en vont. Et donc Abraham les raccompagne. Et là en fait dans le récit, alors qu'ils sont en train de marcher et que Abraham va bientôt leur dire au revoir avant qu'ils aillent à Sodome, on a l'Éternel qui dit. Est-ce que je peux partir en cachant à Abraham ce que je vais faire? Sous-entendu, non. Je ne peux pas partir en cachant à Abraham ce que je vais faire. Je vais lui dire pourquoi je vais à Sodome. Et là, c'est un peu comme si Dieu ne pouvait pas cacher à son ami ses projets. Sinon, ce ne serait pas de l'amitié, finalement. Donc on voit qu'il y a quelque chose de particulier entre Dieu et Abraham, et surtout de la part de Dieu. Mais le deuxième indice qui nous montre ça, c'est que quand Dieu dit à Abraham ce qu'il va faire à Sodome, on a les deux premiers hommes qui partent et on a le troisième qui reste là, un peu pour dire « Bon, allez, vas-y, Abraham, vas-y, dis-moi. » Et il attend finalement que Abraham intercède en faveur de Sodome. Sinon, il ne serait pas resté, hein, il serait parti avec les deux autres. Et on a Abraham, puisqu'il y a le troisième homme qui reste, on a Abraham qui fait sa première intercession. Mais Seigneur, tu peux pas anéantir le juste avec le méchant. Dieu fait d'Abraham son partenaire en l'incitant à remplir son rôle de bénédiction. Le rôle que Dieu lui avait donné au chapitre 17. Puisqu'il est là pour bénir les nations, eh bien, Dieu donne à Abraham l'occasion d'intercéder envers une nation qui pêche particulièrement. Abraham va accomplir son rôle. Et on voit que c'est Dieu qui provoque cette discussion, donc c'est vraiment Dieu qui l'a voulu. Donc là, vraiment, on voit Dieu qui met Abraham en mouvement. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut dire que Abraham a aussi un intérêt personnel à intercéder. Quand entend-on parler de Sodome pour la dernière fois dans l'histoire d'Abraham? Eh bien, c'est en Genèse 13. Et qui se trouve à Sodome en Genèse 13? Eh bien, Lot. Lot, le neveu d'Abraham. Dans Genèse 13, on voit que Dieu bénit tellement la maison d'Abraham que les troupeaux d'Abraham et les troupeaux de Lot, son neveu, sont si nombreux que les bergers commencent à se castagner et donc il est temps de séparer les deux cheptels pour que chacun soit dans son pâturage afin que les vaches soient bien gardées. Et au chapitre 19, donc le chapitre après le chapitre 18, on apprend que la famille de Lot compte 6 personnes. Donc Lot, sa femme, 2 filles, 2 gendres. Donc la famille compte 6 personnes. Et là, vous comprenez que la négociation d'Abraham s'arrête à 10. C'est peut-être pas tout à fait innocent. Il s'arrête à 10 en se disant, bon, bah, Dieu m'a dit, à partir de 10, j'anéantis personne, ils sont 6, donc ça devrait aller. C'est un peu ça l'idée. Et donc là, on comprend qu'Abraham est intéressé aussi lors de son intercession pour Sodome. Une autre chose qu'on peut remarquer dans cette relation particulière, c'est qu'il y a une grande liberté de ton de la part d'Abraham. Abraham devine tout seul que Sodome et Gomorre vont être détruites. Dieu ne le dit jamais dans le récit. Mais en fait, Abraham connaît Dieu. C'est que Dieu ne va pas laisser le mal impuni. Et donc, il sait que Dieu va détruire. Mais du coup, il se permet de parler à Dieu vraiment comme un ami parle à un ami. C'est-à-dire, mais tu peux pas y aller. Je vous rappelle qu'il s'adresse au Dieu 3x5 qui fait ce qu'il veut, quoi. Un Dieu qui est effrayant, un Dieu qui a fondé la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, qui a fondé tout l'univers. Et là, vous avez le petit Abraham qui dit à Dieu, tu peux pas anéantir. C'est pas possible. C'est pas possible. Par rapport à qui tu es, c'est pas possible. Et après, qui se permet la fameuse négociation de marchand de tapis. Ce qui est aussi une certaine liberté de ton. Donc on voit que Abraham, lui aussi, a vraiment une relation proche avec Dieu. Mais on voit aussi que à la fin, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu dit, à la fin de la négociation, Dieu dit, en fait, voici, il y a 10 justes. Je n'anéantirai pas. Mais en fait, je vais vous résumer le chapitre 19, hein, sans vouloir vous spoiler la fin. En tout cas, avant de vous dire ce qu'il y a dans le chapitre 19, on voit quand même que, déjà dans la négociation, Dieu apparaît comme quelqu'un de juste et de patient. Sauver des milliers de pervers à cause de 10 justes, ça démontre un certain self-control de la part de Dieu. Dieu est patient. Ça montre vraiment son caractère. Donc vraiment, Abraham a raison de dire « tu peux pas faire ça » parce que finalement Dieu ne le fait pas parce que ça ne lui ressemble pas. Mais après, au chapitre 19, on voit au verset 22 que les anges ne peuvent pas détruire la ville tant que Lot et, on va dire, sa femme et ses deux filles, ne seront pas à l'abri. Donc on voit que les anges répondent finalement à l'intercession d'Abraham, puisque au final, Dieu fait ce qu'il veut parce qu'il décide de détruire la ville. Donc Sodome va être détruite. Mais en même temps, il va sauver la famille d'Abraham, la famille de Lot, du péril, de la destruction, parce que Abraham à prier. Donc Dieu fait ce qu'il veut, mais en même temps, il donne satisfaction à Abraham. Et on le voit aussi au verset 29 du chapitre 19, lorsqu'il nous est dit, lorsque Dieu anéantit les villes du district de Sodome, il se souvint d'Abraham, il retira Lot de la destruction lorsqu'il détruisit les villes où Lot habitait. Et on voit que, au final, au lieu d'épargner la ville à cause des justes, Dieu a extrait les justes et a détruit la ville. Car je vous le rappelle, puisqu'il n'y avait que 6 justes, et en fait, au final, au chapitre 19, il n'y a que 3 personnes qui sont sauvées, Abraham et ses deux filles, puisque les deux gendres décident de rester dans la ville, et la femme de Lot a une grande nostalgie pour cette ville. Au final, il n'y a que Lot et ses deux filles qui sont sauvées, parce que finalement, en fait, 3, c'est inférieur à 10. Et donc, il y avait moins de 10 justes, en fait, lors de ce sauvetage. Et donc, au final, Dieu décide de sauver les 3 justes et de détruire la ville. Donc, on voit que Dieu fait ce qu'il veut, mais en même temps, il répond à la prière d'Abraham. Et en même temps, cette prière d'Abraham, elle répond à la mission que Dieu lui avait donnée. Vous voyez un peu le truc. Du coup, ça nous donne des réponses par rapport à notre vie de prière, ce passage. Et la première chose qu'on peut voir, c'est que Dieu veut se servir de nos prières. Dieu, au départ du passage, a déjà décidé qu'il allait détruire Sodome. Mais il s'arrête exprès pour que Abraham intercède pour la ville. Afin, au final, de sauver Lot et ses deux filles. Et voilà comment les choses se sont articulées. Vous comprenez, si vous ne comprenez pas trop la logique, si vous vous dites c'est quand même bizarre que Dieu s'arrête exprès pour que Abraham dise un truc qu'au final Dieu va pas faire, c'est bizarre, mais en fait c'est comme ça très très souvent. Dieu veut se servir de nos prières, pas parce qu'on va l'informer de ce qui se passe, pas parce qu'on va argumenter et que cette argumentation va le convaincre, mais parce que Dieu, dans son plan, choisit de se servir de nos prières pour accomplir ce plan. Dieu pourrait faire les choses sans nous, mais il choisit de faire les choses avec nous. On aimerait bien avoir un rôle plus proactif. On aimerait bien être décisif dans nos prières. Alors d'un côté, nos prières ne sont pas décisives parce que Dieu fait ce qu'il veut et il pourrait faire les choses sans nous. Mais d'un autre côté, elles sont décisives parce que Dieu a décidé que nous allions prier pour telle chose et cette chose-là, il voulait la faire déjà avant. C'est le mystère de la souveraineté de Dieu. Le mystère de la souveraineté de Dieu qui prend aussi en compte la relation intime que Dieu veut avoir avec nous. On est du bon côté de la croix et donc nous connaissons la Trinité. Et donc nous savons aussi que quand nous prions, c'est le Saint-Esprit qui prie au travers de nous, qui nous incite à prier. C'est Dieu en nous qui nous incite à faire certaines prières pour le Père. Et le Père y répond, parce que le Saint-Esprit et le Père sont d'accord, et que le Saint-Esprit nous aide aussi à comprendre le plan de Dieu. Dieu veut se servir de nos prières, si bien sûr ces prières sont des prières qui sont conformes à sa volonté. C'est le deuxième point. Il faut que nous prions en fonction de la personnalité de Dieu. Abraham dit quelque chose de très intéressant. Il dit « Tu ne peux pas détruire cette ville parce que je te connais. Tu ne peux pas le faire. » Et quand Abraham dit ça, il a raison. Et si nous lisons régulièrement la Bible, nous pouvons avoir une idée quand même assez précise de qui est Dieu et comment il intervient dans l'histoire, et ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il n'est pas capable de faire. Alors, il peut tout faire, hein, mais moralement, par rapport à sa personnalité, par rapport à qui il est, eh bien, il ne peut pas tout faire. Si je prie Dieu pour que un lapin sorte d'un chapeau, maintenant, je pense qu'en fait, Dieu peut le faire. Et j'en suis sûr même, Dieu peut le faire. Mais au final, se posera la question de pourquoi est-ce qu'il le ferait ? Pourquoi faire ? Un miracle, Dieu peut le faire. Mais on voit par exemple dans les évangiles, avec Jésus, Dieu fait homme. On voit que par exemple, Jésus fait des miracles et que ces miracles ne sont pas décisifs. On voit que Jésus vraiment se sert de ces miracles, mais pour une vraie raison. Soit pour renforcer la foi de ceux qui croient déjà en lui, soit pour aussi endurcir le cœur de ceux qui sont déjà ses ennemis. On voit l'intention des miracles de Jésus et on voit vraiment qu'il y a un but à ces miracles. Et donc en fait la question, si j'avais un chapeau et je sortais un lapin de ce chapeau, eh bien en fait finalement il y a assez peu de chances que Dieu m'exauce pour sortir le lapin du chapeau, parce qu'en fait pourquoi faire? Si c'est pour rien faire, en fait Dieu le fera pas. S'il y a une utilité, Dieu le fera sûrement. Et j'aurais pu choisir des exemples encore plus absurdes, hein. Mais on peut pas demander à Dieu des choses qui ne sont pas selon sa personnalité. Et on voit, par exemple dans la prière de Jésus à Gethsémané, dans le jardin, Jésus à la fois a cette relation intime avec son Père et a la liberté de lui dire « Si tu peux éloigner de moi cette coupe, fais-le. » Mais en même temps, Jésus sait très très bien que s'il est venu sur terre, c'est pour aller sur la croix. Donc il accompagne sa volonté en disant « Eh bien, pas ma volonté, mais la tienne. » Et Jésus sait très très bien qu'il va passer par la croix. Parce que finalement, c'est sa mission, c'est pour ça qu'il est sur terre. Et donc en fait, on peut prier Dieu pour dire ce que nous voulons, et c'est pour ça qu'il faut prier comme nous sommes aussi. Prier en disant vraiment, en pouvant être très très honnête et en disant réellement ce que nous ressentons et ce que nous voulons. Mais en même temps, puisque nous prions selon la personnalité de Dieu, nous pouvons aussi dire « Ah, Seigneur, je sais que tu veux sûrement ça pour moi. J'ai pas envie d'y aller. J'ai vraiment pas envie d'y aller, donc si tu peux m'éviter ça. Mais a priori, ça a l'air d'être ta volonté. Donc que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. » Et vous voyez, hein, ce partenariat intime que nous pouvons avoir avec Dieu dans la prière. Dieu ne nous appelle pas à avoir des prières toutes faites, des prières toutes jolies, des prières où on se cache, des prières hypocrites, à dire vraiment juste ce qu'il faut. Dieu s'attend à ce qu'on lui dise, ce qu'on pense. Parce qu'en fait, finalement, ce qu'on pense, il le sait déjà. La prière n'a pas pour but d'informer Dieu ou d'argumenter auprès de Dieu. La prière, elle a pour but de conserver, de cultiver une relation intime avec lui. La prière, c'est pas une position réglementaire, yeux fermés, à genoux, mains croisées. La prière, c'est un dialogue permanent avec notre Père. Et si on comprend ça, on s'éloigne de la critique que Jésus faisait aux pharisiens et aux juifs de son époque, qui pouvaient faire les choses de manière hypocrite ou même de manière ostentatoire pour être vus comme des gens très pieux ou comme des gens très contents d'eux. Si nous voyons la prière comme une relation intime avec Dieu, eh bien, nous avons tout compris. Nous avons tout compris et nous pouvons nous détacher de plein de choses fausses. Et nous pouvons aussi même ne plus nous poser la question du but de la prière. Le but, c'est pas que notre volonté soit faite, que les choses que nous allons dire arrivent. Notre but, c'est de dire honnêtement à notre Père ce qui nous touche, ce que nous avons envie qu'il se passe, tout en disant au Seigneur, ce sera selon toi. Fais ce que tu veux et je sais que ta volonté est la meilleure. Je sais que ta volonté est la meilleure. Et nous voyons dans les épîtres du Nouveau Testament, nous avons des apôtres qui disent « Priez ». Priez pour que, par exemple l'apôtre Paul, priez pour que j'ai le courage d'annoncer l'évangile. Intercédez pour tous les saints, intercédez pour les chrétiens dans le monde entier qui luttent comme vous pour la foi, qui sont persécutés à cause de leur foi, intercédez pour eux. Voilà notre mission et Dieu est d'accord et nous pouvons être sûrs que Dieu va répondre à cette prière parce que c'est conforme à sa volonté au départ. Nous prions pour ce qu'il a décidé d'avance. Mais n'oublions jamais que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Et dernière citation qui est tirée de Romains 8, parce qu'en fait, nous sommes appelés à être des intercesseurs, nous sommes appelés à prier les uns pour les autres, nous sommes appelés à faire confiance au Père. Et là, nous avons Paul qui nous rappelle aussi que nous avons un intercesseur dans les cieux qui s'appelle Jésus. Et là encore, en matière d'intercession, il intercède pour nous et sa prière est forcément entendue par le Père. Pourquoi ? Parce que Dieu est mort pour nous, parce qu'il est ressuscité. Il nous a précédés dans la résurrection et donc le Père est toujours d'accord avec lui parce que c'est sa volonté. C'est sa volonté. Et confions-nous tous les jours dans notre Père parce que justement Jésus a payé pour nous. Amen. Je vous invite à prier.